Bonjour à tous. Comme chaque vendredi, on vous propose un débat d'actualité économique. Aujourd'hui, la France va-t-elle en finir avec le chômage de masse ?
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Alors que les manifestations contre la réforme des retraites se poursuivent, deux bonnes nouvelles sont arrivées à point nommé. D'abord, l'Hexagone n'a rien perdu de son attractivité. Au contraire, la France est aujourd'hui championne d'Europe des investissements étrangers. À cela s'ajoute le recul du chômage, plus de 260 000 emplois créés en 2019. Des succès que les uns attribuent à la politique du gouvernement, les autres aux difficultés de nos voisins britanniques et allemands. Alors la baisse du chômage va-t-elle se poursuivre jusqu'à atteindre les 7% promis par Emmanuel Macron? C'est la question que nous allons poser à nos trois invités. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans le débat d'Entendez-vous les coups. Trois invités autour de la table donc. Bonjour Éric Heyer.
Bonjour.
Vous êtes directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, un centre de recherche en économie de Sciences Po. À vos côtés, Anne Hédoux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, maîtresse de conférence au Conservatoire national des arts et métiers, membre des économistes atterrés. Et enfin, Jean-Marie Pillon. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université Paris-Dauphine et auteur de cet ouvrage, Pôle emploi, gérer le chômage de masse, paru aux presses universitaires de Rennes. À 14h50, on retrouve la chronique de Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives Économiques.
Quand j'étais petit, je voulais être chômeur. Maintenant, je suis grand, je suis chômeur.
7%, c'est le chiffre de chômage qu'avait la France en 2007. Donc ça n'est pas impossible. Et si on compare avec nos voisins, c'est un chiffre qui est atteignable.
Au début du septennat, comme ça, il y a toujours un état de grâce. Eh bien, au début, c'est les 3 mois. Et puis après, au bout d'un an du nouveau gouvernement, eh bien, la garantie est foutue.
J'étais la semaine dernière visiter les entreprises. J'étais à Agen, j'étais à Lavelanet, j'ai vu des dizaines de chefs d'entreprise, plutôt des PME, des TPE. Ils ont un seul point commun, quel que soit leur territoire, niveau de chômage, c'est on n'arrive pas à recruter.
J'hésitais entre ouvrier chômeur et patron chômeur, et puis finalement j'ai pris ouvrier. Eh ben, je suis content parce qu'il y a plus de choix.
Nous devons persévérer, parce que c'est cette persévérance qui nous permettra d'atteindre l'objectif de 7% de taux de chômage en 2022. Et puis notre objectif qui est le plein emploi pour la France.
Parce que tout le monde gueule, on dit « Ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail ». C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait.
Vous avez bien sûr reconnu Coluche, mais aussi Emmanuel Macron, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. La France a donc enregistré l'an dernier la plus forte baisse du chômage depuis la crise de 2008. Est-ce qu'on peut en conclure que le recul du chômage s'accélère enfin, Éric Heyer ?
Oui, on peut le dire effectivement, et pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que vous l'avez rappelé dans votre introduction, on a créé des emplois. Donc vous voyez, on peut aussi baisser le chômage pour des mauvaises raisons, soit parce que des chômeurs seraient découragés, donc sortiraient des statistiques de ce point de vue-là, soit parce qu'on radierait ces chômeurs-là. Non, là c'est vraiment des créations d'emplois, 260 000 créations d'emplois. Vous voyez, la population active, nous dit l'INSEE, augmente d'environ 150 000. Donc effectivement, vous créez plus d'emplois que la population active augmente, donc le chômage ne peut que baisser. Et effectivement, la bonne statistique, c'est celle de l'emploi. Et donc, ce qu'on peut se poser comme question, c'est comment fait-on pour créer 260 000 emplois alors qu'il y a un franc ralentissement de l'économie? Ça, c'est la véritable interrogation. Mais que le chômage baisse quand on crée de l'emploi de masse, c'est normal.
Donc, une bonne nouvelle dont il faut se réjouir, 70 000 emplois créés de plus, Anne Hédoux, par rapport à l'année dernière?
Oui, c'est bien sûr, c'est une bonne nouvelle quand le chômage baisse. Alors, ceci dit, quand on a les indicateurs de la DARES qui sont sortis, et il faut regarder un petit peu dans les détails. Hein. Aujourd'hui, les chômeurs de catégorie A sont les personnes qui n'ont pas du tout d'emploi. Mais si toutes les catégories de demandeurs d'emploi sont en recul, donc ce qui est plutôt un bon signe, il y a aussi plusieurs manières de les interpréter. Hein. On continue quand même à avoir beaucoup de catégories de demandeurs d'emploi précaires, hein, donc les catégories B et C, même si elles sont en diminution. Et puis, on a aussi une baisse de deux catégories de demandeurs d'emploi qui sont très liées aux évolutions de la politique de l'emploi, les catégories D et les catégories E. Mais là, je dirais, ça dépend peut-être plus des mesures de politique de l'emploi que de
il faut que vous nous rappeliez ces catégories D et E, à quoi elles correspondent.
Alors, les catégories E, c'est les catégories des emplois aidés. Donc, comme on sait, au début du quinquennat actuel, il y a eu une volonté de baisser les emplois aidés. Donc, comme une partie des demandeurs d'emploi qui sont en emploi aidé sont inscrits dans la catégorie E, ça l'a fait mécaniquement baisser. Et puis, la catégorie D, on y trouve plusieurs types de demandeurs d'emploi, mais notamment ceux qui sont en formation, hein, qui sont considérés comme indisponibles pour travailler. Et là, c'est une catégorie qui a un peu remonté avant de diminuer, ce qui tient aussi à la volonté de développer les dispositifs de formation à l'égard des chômeurs.
Alors, on va revenir sur les politiques publiques, oui, qui sont un aspect effectivement très important.
Encore juste un autre point que je voulais ajouter. Si on compare les données de Pôle emploi et de la DARES avec celles de l'INSEE, on a quand même un élément qui reste préoccupant, c'est que ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas considérées comme chômeuses et parce qu'elles sont considérées soit comme indisponibles pour travailler, soit comme ne faisant pas de démarches actives de recherche d'emploi.
Des personnes découragées,
mais
par
qui
exemple
veulent travailler, voilà, mmh, ça peut être des chômeurs découragés. Là, on a toujours un niveau très très haut de ce halo du chômage et qui ne semble pas reculer.
Un halo du chômage même qui augmenterait, Jean-Marie Pillon, contrairement au chômage.
Oui, alors effectivement, vous le disiez, hein, il y a un méplat dans cette évolution des chiffres du chômage. Alors c'est pas la première fois qu'on connaît un tel méplat depuis la crise de 2008. Le précédent président l'avait connu à la fin de son mandat. Ça n'a pas empêché le chômage de repartir un peu à la hausse. Là, à l'heure actuelle, les chiffres nous ramènent à des chiffres du chômage qui nous renvoient à peu près à des périodes comme 2015-2016. Quoi. Aujourd'hui, il y a à peu près autant de chômage qu'en 2015-2016.
Sachant que c'est en 2015 que le chômage a commencé à recommencer à baisser.
Tout à fait. Donc voilà, il n'y a pas de retour magistral à une période d'emploi massif. Et comme vous le disiez, ce qui est peut-être beaucoup plus durable, c'est le sens de votre question, c'est que finalement, ce qui tend à remplacer le chômage total, entre guillemets, c'est en fait ce qu'on appelle l'activité réduite, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont comptées en BSC, qui sont des chiffres qui ne sont pas toujours commentés et qui correspondent en fait à des individus qui travaillent. Alors, voilà, on peut avoir l'image du chômeur qui ne travaille pas. En fait, les catégories P et C qui sont très importantes et qui augmentent, ce sont des individus qui cumulent les deux.
C'est important effectivement de rentrer dans le détail de ceux qui sont concernés par cette baisse du chômage. Ce que l'on constate, Éric Ayer, c'est que toutes les classes d'âge sont concernées sauf les plus de 50 ans.
Ça dépend si vous prenez un horizon d'un an, enfin, ou du trimestriel. Vous voyez, ces données-là, quand même, il vaut mieux prendre un tout petit peu de distance. C'est-à-dire que, habituellement, on les commentait tous les mois. On a fait un progrès. On les commente maintenant tous les trimestres. Mais je pense qu'il faut encore faire un progrès et les mettre ça dans une tendance un peu plus longue et un an. Quand on regarde sur un an, on peut dire que globalement, toutes les catégories en profitent. Et moi, s'il y a une catégorie qui n'en profite pas, c'est plutôt les chômeurs de longue durée. Mais si on prend les catégories hommes, femmes ou jeunes, moins jeunes, globalement, le taux de chômage, le nombre de chômeurs dans ces catégories-là baisse sur un an.
Un peu plus les hommes que les femmes.
Un peu plus les hommes que les femmes.
Un peu plus les plus jeunes que les plus âgés.
D'accord. Il y a des petites différences, mais globalement, tout le monde semble en profiter, sauf, et donc je pense que c'est ça le vrai problème et la véritable entrée dans le marché du travail, c'est plutôt, on va dire, qualifié, non qualifié, ça serait plus intéressant que homme, femme ou jeune, moins jeune, ça serait qualifié, non qualifié, et est-ce qu'on est chômeur de longue durée ou pas ? C'est-à-dire que globalement, alors que les statistiques s'améliorent sur un an, la durée au chômage augmente, et donc ça c'est assez intéressant à noter, c'est-à-dire que quand vous êtes chômeur, la probabilité de retrouver un emploi, eh ben, ça s'amenuise avec votre durée au chômage. Et donc ça c'est un véritable problème.
C'est dû au marché de l'emploi qui continue à se polariser entre des emplois très peu qualifiés, des emplois très qualifiés.
Alors, pas uniquement la polarisation, ce sera encore un autre sujet. C'est-à-dire que s'il y a des créations d'emplois, ça c'est 260 000, c'est bien, c'est une bonne statistique compte tenu de la croissance économique, la qualité de cet emploi est à regarder. Et effectivement, on regardera, est-ce que ce sont des contrats courts coup des contrats un peu plus longs? Est-ce que c'est dans la polarisation des emplois extrêmement peu qualifiés ou très qualifiés? Enfin, on pourra rentrer, j'imagine, dans le détail. Mais non, je pense que la durée, c'est encore autre chose. C'est que globalement, dans le marché du travail, effectivement, quand vous êtes au chômage, vous avez beaucoup de difficultés à y retourner. Alors souvent, vous êtes peu qualifié hein, quand vous êtes un chômeur de longue durée, mais c'est sans doute ça le critère important. Et si on devait, à mon sens, faire une politique publique, elle devrait cibler sur ces chômeurs de très longue durée qui, dans la file d'attente au chômage, se situent extrêmement éloignés du marché du travail.
Alors on va voir effectivement comment ces politiques publiques essayent de répondre à cette question. Mais pour finir, cet état des lieux, si l'on regarde du côté des régions, est-ce que ce sont les régions qui ont le plus profité, est-ce que les régions qui ont le plus profité de ces créations d'emplois, ce sont celles qui sont le plus touchées par le chômage, c'est-à-dire les Hauts-de-France ou encore l'Occitanie, qui est la deuxième région la plus touchée après les Hauts-de-France, année douce? C'est pas forcément très facile d'avoir les chiffres des régions.
Alors, je dirais, on les a dans les données d'ARES. Je rejoindrai ce que disait Eric Heyer. Dans l'ensemble, il est déjà très difficile de commenter des chiffres du chômage qui tombent comme ça périodiquement, hein, parce que c'est vrai qu'on a besoin de tendances longues. Là, on a des données qui montrent un recul du chômage et c'est très intéressant. Mais si on regarde les courbes de manière plus longue, ça correspond plutôt à un léger fléchissement. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est quand même pas dans une inversion radicale du chômage. Et puis, pour les régions, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que le chômage, il a tendance à évoluer très fortement selon la conjoncture, un peu en dents de scie, et il est très lié, finalement, au niveau régional, à des effets de secteur qui sont plus ou moins prédominants selon les régions, qui peuvent être plus ou moins dynamiques et qui peuvent tirer certaines régions vers le haut ou vers le bas.
Alors, ce que j'ai lu, c'est que du côté des Hauts-de-France, la baisse du chômage avait été importante, mais que du côté de l'Occitanie, elle avait été moins importante, notamment parce que ce serait un territoire qui attirerait beaucoup de monde, mais qui, en même temps, aurait des propositions, des offres d'emploi assez faibles, Jean-Marie Pillon.
J'irais très clairement dans la lignée de ce que disait Anedou, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire attention pour quand on analyse ces chiffres, à voir effectivement comment est-ce que chaque secteur réagit à ce rebond ou ces transformations de la dynamique. Et puis il y a aussi quelque chose qui peut être important, c'est finalement les recompositions de alors ce que certains appellent la mondialisation, mais tout simplement la place que chaque région occupe dans la division nationale ou internationale des tâches, qui fait qu'une région qui était très dynamique peut se retrouver marginalisée à cause du prix du pétrole, à cause de la recomposition des circuits de distribution, qui fait que voilà, il faut attendre un peu et il faut attendre plus quelques mois avant de voir quelles pourraient être les causes de ces évolutions.
On va tâcher d'être prudent dans l'interprétation de ces chiffres. Anedou, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, juste une chose. Les chiffres du chômage sont toujours suivis de très près. Et c'est des chiffres qu'on a en premier, avant toutes les autres données qui permettent de les interpréter. Et donc, enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué d'analyser très finement des évolutions récentes du chômage.
Mais ce qui peut étonner quand on regarde ces chiffres du chômage, c'est effectivement que la croissance a été relativement faible, Eric Heyer, malgré le fait que la consommation a quand même été relancée par les baisses d'impôts liées à la crise des gilets jaunes.
Oui, effectivement. Donc, la surprise sur le marché du travail, c'est de créer autant d'emplois et finalement une croissance qui tournerait. Alors, je mets bien un conditionnel entre 1, 2, 1, 3. Alors, pourquoi je mets un conditionnel? C'est que vous voyez, les statistiques de Pôle emploi ne sont pas révisées ou très peu révisées. En revanche, la statistique de croissance économique peut être révisée, même sera révisé, on ne connaît pas le sens, à la baisse, à la hausse, mais donc globalement il faut être prudent, peut-être que dans 2 ans et demi, parce que dans 2 ans et demi on connaîtra le chiffre de croissance économique de 2019, potentiellement on peut nous dire qu'il y a eu un 7, un 8 de croissance, et on comprendrait mieux les créations d'emplois de ce point de vue-là. Donc je mets un conditionnel, avec 1, 2, 1, 3, effectivement normalement avec 1, 2, 1, 3 de croissance, on crée beaucoup moins d'emplois que cela. Là, en gros, dit autrement, il n'y a plus de productivité en France. Il n'y a plus de gain de productivité en France. Et ça, c'est quand même très étonnant, même si on était dans une tendance au ralentissement de ces gains de productivité, c'est-à-dire que la croissance est de plus en plus riche en emplois, et qu'il y a eu certains dispositifs mis en place par le précédent gouvernement, mais celui-ci aussi, qui a enrichi la croissance en emplois. Quand on baisse les cotisations sur les bas salaires, on les rend un peu plus attractifs pour les employeurs, et donc normalement, bas salaire égale niveau de productivité plus faible, donc ça doit jouer. Mais même quand on prend tous ces éléments-là, on est surpris par la faiblesse des gains de productivité. Donc on peut s'en réjouir d'un côté, parce que ça crée beaucoup d'emplois et ça fait baisser le chômage, mais on sait qu'à terme, si ça devait être tendanciel, plus de gains de productivité, s'il y a un vieillissement de la population, ça veut dire demain plus de croissance. Alors pour l'environnement, ça peut être potentiellement une idée intéressante, mais pour la redistribution de, et
pour le financement
de notre modèle social, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc attention, c'est une bonne nouvelle un peu qui peut
à double
terme,
tranchant.
À double tranchant. Mais donc globalement, ce qui est intéressant, c'est quand même ces créations.
Il faut s'inquiéter, Anedou, de cette stagnation de la productivité en France ?
Alors, difficile à dire, hein. On ne sait pas très bien comment elle va évoluer. Moi, je dirais que ce que ça m'inspire comme réflexion, c'est que le taux de chômage et la productivité dépendent de bon nombre de variables, mais que les politiques publiques jouent un rôle. Et je dirais que le chemin de politique publique qui a été choisi depuis quelques années, qui accorde la priorité à la flexibilité de l'emploi, aux allègements de cotisations, je dirais, c'est les anglo-saxons disent low road, je sais pas comment le dire, c'est pas forcément un très bon chemin pour la productivité, hein. C'est-à-dire que effectivement, c'est des mesures qui permettent d'enrichir la croissance comme en emploi, comme on dit, mais c'est plutôt en emploi qui sont parfois des miettes d'emploi, hein. Donc ça peut être les CDD, l'intérim,
alors
le temps partiel,
la qualité de ces emplois,
ou bien des emplois qui sont devenus plus précaires parce que les ruptures de contrats de travail sont devenues plus faciles.
Oui, mais ce qu'on constate, c'est que les emplois en CDI augmentent un petit peu dans ces nouvelles embauches et aussi que les CDD sont un peu plus longs.
Oui, mais enfin les ruptures de contrats de travail, y compris en CDI, augmentent aussi. Donc on est quand même dans cette tendance à la flexibilisation. Et il y a des travaux qui ont montré que faire ce choix-là pour l'emploi, c'est plutôt mauvais pour la productivité.
Éric Heyer sur les nouveaux contrats. Éric, d'abord pardon, Jean-Marie Pillon puis Éric Heyer.
Non, simplement, je pense qu'on en reparlera dans les modèles allemands et anglais. Mais c'est vrai que la question qui se pose, et là où on est peut-être un peu à une bascule qui conviendra d'analyser avec le temps, c'est dans quelle mesure en fait ces gains en emploi ne relèvent pas d'une forme de répartition du temps de travail, mais sous une forme qui n'est pas forcément celle qui avait été menée auparavant, mais qui consisterait effectivement à découper des emplois à temps plein en petits bouts d'emploi.
C'est ce que fait l'Allemagne.
Voilà, et donc qui permet d'avoir moins de chômeurs, plus de gens qui travaillent, mais avec des bas salaires, une productivité assez basse, etc.
Éric Heyer.
Sur le constat de la qualité de l'emploi, enfin, on peut effectivement, si on a un regard très court terme, dire qu'il y a une légère amélioration. Mais on peut rappeler les chiffres. Vous voyez, les statistiques commencent en 2000 sur la qualité de cet emploi. Donc en gros, globalement, vous avez aujourd'hui en France 26 millions de contrats, un peu plus de 26 millions de contrats qui sont signés chaque année. Sur ces 26 millions de contrats signés chaque année, vous avez 15% en CDI, 85% en CDD. Mais vous avez 66%, donc les deux tiers de ces 26 millions sont des CDD de moins d'un mois, extrêmement courts, en grande majorité de 5 jours. Vous voyez, c'est des contrats extrêmement courts. Cette même statistique, effectivement, si je la regarde en 2015, c'était pas 66% qui était en CDD de moins d'un mois, c'était 70%. Donc on peut dire il y a une légère amélioration, mais en 2000, le début de statistique, c'était 50%. Donc vous voyez, en 2000, 50% des contrats signés étaient des CDD de moins d'un mois. Aujourd'hui, c'est 66%, donc c'est beaucoup plus. Alors il y a une légère amélioration depuis 2015, mais qui était un pic historique. Donc globalement, on peut dire qu'on est quand même dans une tendance à une plus forte flexibilité. Est-ce que c'est mauvais, une plus grande flexibilité ? Vous voyez, dans certains pays, une flexibilité qui a été accordée et qui était plutôt vertueuse. On pense au modèle scandinave dans un premier temps, mais auquel on accordait beaucoup de sécurité, tout de même, pour les personnes qui tombent au chômage. Là, le problème, me semble-t-il, c'est qu'on est dans un marché de plus en plus flexible et on enlève petit à petit les sécurités. Je ne sais pas si on parlera de la réforme de l'assurance chômage, mais globalement, vous voyez, là, on ne peut pas se réjouir d'une plus grande flexibilité d'un côté et un moment où on retire aussi les filets de sécurité.
Et puis en termes de qualité d'emploi, il faut regarder aussi si ces nouveaux emplois créés sont rémunérateurs ou non, parce qu'ils peuvent être moins rémunérateurs que l'emploi précédent.
Exactement. Alors ça, c'est la question de la polarisation du marché du travail, alors qui n'est pas un débat franco-français. Cette polarisation du marché du travail, on la retrouve un peu partout dans les pays développés. Pour être un peu plus précis, si on, admettons, on classe les emplois créés en emplois à basse qualité, enfin à basse qualité, emploi à haute qualité et emploi intermédiaire, globalement, on voit dans tous les pays développés, on détruit des emplois intermédiaires pour créer soit des emplois faiblement qualifiés, soit des emplois fortement qualifiés. Et le déclassement d'un certain nombre de salariés, c'est jeter dans un emploi intermédiaire, industriel, on va dire, relativement bien rémunéré, et je perds cet emploi-là, parce qu'on détruit plutôt des emplois industriels, et on me reverse, on me reclasse dans des emplois de services moins bien qualifiés, moins bien rémunérés, et donc je peux même avoir un CDI, mais je me considère déclassé parce que mon salaire est plus faible qu'à l'époque.
Mais justement, ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est qu'on a constaté que l'industrie recrutait à nouveau. Est-ce que le secteur a un petit peu repris des couleurs et est-ce que c'est lié à cette fameuse attractivité française, Anne-Edou ?
Alors, la France est certainement attractive et elle le reste sur
la plus attractive d'Europe selon Ernst & Young.
Oui, je demande à voir. Mais sur la question des créations d'emplois dans l'industrie, en fait, on peut pas vraiment prévoir comment ça va évoluer. Là, on nous annonce aujourd'hui plutôt une baisse de croissance. Et en général, si cette baisse devait se poursuivre, c'est toujours la même chose. C'est difficile d'interpréter précisément à quoi elle est liée. Si cette baisse devrait se poursuivre, souvent l'industrie est assez touchée. Donc réjouissant que l'industrie crée des emplois, mais on peut difficilement prévoir ce que ça va donner à moyen terme.
Mais simplement pour voir un petit peu quels sont les secteurs qui ont embauché, on peut dire que c'est beaucoup l'informatique, la recherche et développement et également le bâtiment qui ont tiré les emplois à la hausse, Jean-Marie Pillon.
Alors on en revient à ces questions de composition par secteur, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement, qui profitent particulièrement de la croissance. Vous les avez cités, et puis il y en a d'autres qui, continuent de péricliter. Là où il faut faire attention sur l'industrie, c'est que l'industrie, ça peut produire des emplois qualifiés, plutôt bien rémunérés, etc. Ça peut aussi renvoyer à des emplois beaucoup moins qualifiés. On pense par exemple à la question de la manutention, la question de la logistique, qui produisent énormément d'emplois d'une qualité particulièrement discutable et qui accompagnent le développement du e-commerce, le développement de la distribution à distance, etc.
On a en tout cas une baisse du chômage, mais qui ne doit pas masquer le fait que la France a beaucoup de retard par rapport à ses voisins européens. Depuis 2008, on a en France un taux de chômage qui diminue beaucoup plus lentement que chez nos voisins, Eric Herr.
Bon, le problème de nos voisins, c'est qu'on a un voisin, un gros voisin, l'Allemagne, qui est à 3% de chômage, donc au plein emploi, et donc ça tire la moyenne à la baisse. Et donc,
le Royaume-Uni aussi.
Alors, le Royaume-Uni, mais qui n'est pas dans la zone euro. Alors, si on prend des pays qui ont les mêmes contraintes, c'est-à-dire la même banque centrale, la même monnaie, etc., dans la zone euro, nos principaux voisins, c'est quand même l'Italie, l'Espagne, c'est quand même deux gros pays qui nous ressemblent énormément en termes de taille, en termes de contraintes. Et c'est deux pays où le taux de chômage est beaucoup plus élevé qu'en France.
14% en Espagne, 10% en Italie.
Exactement. Donc et pourtant c'est... Alors après, il y a bien sûr l'Allemagne qui est à 3%, mais là on a l'impression que la France est un peu au milieu et donc
si on regarde l'ensemble de l'Union européenne, on a juste la Grèce, l'Italie et l'Espagne devant nous.
Non mais vous avez raison. Non mais on fait pas partie des bons. Alors mais on peut pas dire non plus on est le pays où on a le plus fort taux de chômage. Ensuite, il y a une statistique qui est quand même importante si on veut comprendre les évolutions du chômage, c'est la population active. C'est-à-dire qu'on a un avantage par rapport à tous les pays, c'est qu'on continue à faire quand même beaucoup d'enfants et on a une population qui continue à augmenter et qui augmente plus vite qu'ailleurs. Alors, pour moi, c'est un avantage, mais pour faire baisser le chômage, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il nous faut beaucoup plus de création d'emplois en France que dans quasiment tous les pays précités pour stabiliser le chômage. Et puisqu'il nous faut plus de création d'emplois, il nous faut aussi un peu plus de croissance à productivité donnée. Donc, c'est une chance, mais à court terme, effectivement, ça permet d'expliquer une partie de cela. Et alors après, il faut rentrer dans le détail, encore une fois, sur la durée du travail. Est-ce qu'on crée des emplois à temps partiel ou à temps complet? Une autre statistique qui me semble être importante, c'est qu'on a un taux de temps partiel l'un des plus faibles de ces pays-là. Vous voyez, si vous regardez le Pays-Bas ou l'Allemagne, ils ont des temps partiels qui sont beaucoup plus importants. Et devinez qui est à temps partiel dans ces pays? Ben, ce sont des femmes. Donc oui, on arrive plus facilement au plein emploi dans ces pays-là, mais en mettant les femmes à temps partiel, en disant, voilà, c'est toi qui tu n'as accès qu'à du temps partiel. C'est pas très moderne comme façon de réfléchir.
Anne-Edou, sur la comparaison du taux de chômage français par rapport à ses voisins?
Alors oui, je vais revenir sur... Alors déjà, je pense que le chômage, il est quand même très sensible aux institutions quand on le mesure. Hein. C'est-à-dire que comparer des taux de chômage sans s'intéresser à aux différentes allocations qui existent dans le pays, voilà, on sait qu'à un moment, au Royaume-Uni, il y avait un faible taux de chômage des hommes et que beaucoup de chômeurs étaient... entre guillemets, caché dans la catégorie du handicap. Hein. Et donc, voilà, il y a la manière dont institutionnellement on classe les chômeurs, la manière dont on les indemnise. Hein. On sait que dans les pays où ils sont très mal indemnisés, ça fait baisser le chômage parce que les chômeurs, au lieu de s'inscrire à l'équivalent de Pôle emploi, ils font leur démarche de recherche d'emploi. Mais voilà.
C'est le cas du Royaume-Uni, par exemple.
Côté. Voilà, peut-être la France, on commence... quand même à avoir un système de moins en moins généreux. Et puis, il y a la question de la qualité de l'emploi. C'est-à-dire que si on prend l'Allemagne, c'est intéressant de regarder sur le long terme les évolutions de la France et de l'Allemagne, parce qu'au début des années 2000, l'Allemagne entrait en récession alors que la France n'avait qu'un petit ralentissement économique. Et l'Allemagne avait un taux de chômage très élevé, se considérait comme l'homme malade de l'Europe. Mmh. C'est d'ailleurs... ce qui a fait passer les fameuses lois Hartz, hein. Et c'est vrai que à ce moment-là, au moment de la récession en Allemagne en 2008-2009, on a commencé à parler de miracle allemand parce que précisément à ce moment-là, le taux d'emploi des femmes continuait à augmenter, le taux de chômage a très peu augmenté pendant cette récession. Pour deux raisons principalement, au risque de caricaturer un peu, pour des raisons qui tiennent aux produits qu'exporte l'Allemagne, hein, c'est-à-dire que la récession allemande n'a pas duré très longtemps, la demande en provenance des pays émergents pour ce que produisait l'Allemagne ayant remonté très vite. Et puis l'autre raison, c'est les politiques de l'emploi, c'est-à-dire que l'Allemagne a évité les licenciements en utilisant très massivement du chômage partiel, dans les secteurs industriels, et puis avec ces fameuses réformes Hartz, a créé des emplois, mais vraiment des miettes d'emplois. Par exemple, les mini-jobs qui ont grimpé en flèche pendant les années 2000.
Donc effectivement, l'Allemagne a commencé son rattrapage en quelque sorte dès 2008, là où la France a vu son chômage commencer à diminuer seulement en 2015, Jean-Marie Pillon.
En fait, effectivement, ça dépend ce que vous appelez rattrapage par rapport à quoi. C'est-à-dire que les Allemands ont fait un choix qui est de passer par le marché du travail pour, entre guillemets, financer la pauvreté. Donc la pauvreté est financée par le marché du travail. Alors comment ça fonctionne en Allemagne? La spécificité, c'est qu'il y a deux pôles emploi en Allemagne. En fait, il y a un pôle emploi pour les gens indemnisés. Donc c'est-à-dire que pendant 12 mois, vous avez le droit à des services d'une très grande qualité qui vous accompagnent très bien, etc., avec des emplois qui vous sont proposés. En revanche, au bout de 12 mois, vous tombez, entre guillemets, dans un deuxième pôle emploi, qui est un pôle emploi local, où on exerce beaucoup plus de pression sur vous, où vous êtes beaucoup moins aidé, etc. Et ça conduit à ce que, eh bien, les miettes d'emploi dont parlait Anne-Edou sont particulièrement recherchées, parce que ça permet justement d'échapper à la pression qui est exercée par ces pôles emploi locaux. Le cas des Anglais, où l'évoquait qui est tout à l'heure, c'était d'avoir fait... c'est vous, Anne-Edou, qui en parliez. Ils ont fait le choix de l'assistance. C'est-à-dire qu'ils gèrent la pauvreté par l'assistance. Et en France, on a fait un choix, je ne sais pas s'il est médian, mais en tout cas un choix spécifique, qui est de dire, on a un monopole public, ce Pôle emploi, et on veut que tout le monde passe par Pôle emploi. Et donc ça... Ce qui fait que, eh bien, à Pôle emploi, tout le monde est inscrit. Tout le monde s'inscrit à Pôle emploi quand il doit toucher une forme de rémunération, de compensation, que ce soit le RSA ou autre, il faut être inscrit à Pôle emploi. Donc, de ce fait, ça contribue à ce que, et on peut s'interroger sur le fait, est-ce que c'est un mal ou est-ce que c'est un bien. En France, ça contribue à ce que toutes les personnes qui sont en situation de sous-emploi sont incitées à s'inscrire à Pôle emploi. Et toutes ne touchent pas des, indemnités. Ce qui conduit, simplement pour terminer, ce qui conduit à ce que les chiffres français sont forcément gonflés par rapport à celles de nos voisins, dans la mesure où, dans le cas des Allemands, ce sont des petits contrats qui se partagent entre plein de gens, tandis qu'en France, on a une très grand nombre de personnes
Eric
qui sont inscrites à Pôle emploi.
N'a pas l'air complètement d'accord.
Non, c'était sur le dernier point, c'est-à-dire que quand on fait des comparaisons internationales, on ne regarde pas Pôle emploi, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on regarde les statistiques du Bureau international du travail, c'est-à-dire qu'il n'existe pas les mêmes définitions Pôle emploi en Allemagne, etc. Mmh. Et donc, quand on parle de taux de chômage, admettons, et quand on regarde le taux de chômage de l'enquête emploi, qui est une enquête qui est menée à peu près de façon équivalente dans tous les pays, en tout cas, c'est monté. Et donc, il y a un écart entre les données de l'INSEE, donc de Pôle emploi, du BIT, et les données de la DARES. Bon, et donc, normalement, ça doit lisser tout de même ces divergences.
Et on peut maintenant se demander quel impact la réforme de l'assurance chômage aura justement sur l'emploi. On en parle dans un instant. France Culture, entendez-vous l'écho? Éric Heyer, Anne Hédoux et Jean-Marie Pillon sont toujours avec nous pour parler du retour de l'emploi en France. Alors, quel impact de la réforme de l'assurance chômage sur l'emploi? Cette réforme a durci les règles d'éligibilité. Il faut avoir travaillé 6 mois et non 4 mois au cours de la dernière année pour prétendre à des droits. Diverses mesures d'incitation au retour à l'emploi ont également été mises en place. Alors, on peut évidemment difficilement faire un bilan de cette réforme dont la première partie seulement est entrée en vigueur en novembre dernier, la partie sur le durcissement des règles d'éligibilité. Mais à quoi faut-il s'attendre, selon vous, Éric Heyer?
Avant tout, à des économies, je pense. Enfin, plus que des économies budgétaires, plus que des résultats sur le front du chômage. Enfin, il faudra regarder de près. Vous n'avez pas parlé de la dégressivité pour les cadres. Vous voyez, typiquement, la dégressivité pour les cadres. Il y a tout de même beaucoup de littérature aujourd'hui sur la question. Et la littérature conduit à peu près à 80% à nous indiquer que le meilleur système, c'est un système à droit constant et pas à droit dégressif. Parce qu'effectivement, peut-être que ça peut avoir une incidence pour le retour à l'emploi des cadres, mais ces cadres reprendraient un travail qui serait un peu en dessous de leur valeur, donc prendraient la place d'un autre chômeur qui serait dans la bonne qualification. Donc sur la file d'attente, nous indiquent ces études, ça ne fait pas grand chose, et même c'est les personnes qui sont pas employées à leur bonne productivité, donc c'est pas terrible. Donc la dégressivité, ça peut faire des économies, mais ça fera rien en termes de chômage macro. Vous n'avez pas parlé du bonus malus, mais ça aussi ça va intégrer. Là, on peut considérer que ça part d'un bon principe, mais
alors il faut rappeler, le bonus malus, ça sert Alors on va donner un bonus aux entreprises qui embauchent moins en CDD et un malus voilà, à celles qui n'embauchent pas. Et ça dépend, c'est dans certains secteurs.
Exactement, ils l'ont fait dans 7 secteurs et donc ça sera des bonus-malus par secteur. C'est-à-dire que, alors d'abord, c'est quand même une usine à gaz, c'est pas évident pour les entreprises pour situer, parce que c'est un peu de l'expérience rating, c'est-à-dire qu'on va regarder leur comportement sur les 3 dernières années, et donc qu'est-ce qu'on fait avec les entreprises qui sont jeunes, qui arrivent à peine, enfin bon, il y a un certain nombre de problèmes, mais on peut considérer que c'est un bon principe, puisqu'effectivement ça coûte cher à l'assurance chômage, le fait que des entreprises utilisent des dispositifs de très court terme pour pouvoir avoir plus de flexibilité, mais ça a un coût pour l'assurance chômage. Donc,
puis le MEDEF n'en voulait pas, il y avait une crainte autour de cette mesure.
Ah oui, c'est-à-dire que qui doit financer cela ? Pour l'instant, ce sont les chômeurs qui le financent, ou on va dire toutes les entreprises, y compris les entreprises qui n'ont pas recours à ce type de dispositif. Donc que ce soit les pollueurs-payeurs, un peu globalement, qui le financent, c'est une bonne idée en soi. Le problème, c'est que, vous l'avez dit, c'est sûr, ils sont arrêtés à 7 secteurs. Donc là, en gros, c'est un tiers des contrats courts qui seront impactés. Donc les 2/3, ben, finalement, ça sera du business as usual. On ne comprend pas pourquoi. Et donc faire un dispositif sur un tiers, c'est, à mon sens, ça ressemblerait plus à une taxe sectorielle. Donc ce n'est pas terrible. Mais, et après, vous avez le dernier point que vous avez évoqué, c'est-à-dire on durcit les conditions. Et ça, je pense que ça part du principe que globalement, les chômeurs indemnisés jouent avec le système. Alors, si effectivement on pense cela, que les chômeurs jouent avec le système, ça peut avoir une petite incidence. Si maintenant on pense qu'il y a très peu de personnes qui utilisent, c'est un peu les données de Pôle emploi, c'est que finalement il y aurait assez peu de personnes, ça existe bien entendu, mais ça serait assez peu, aux alentours de 7%. Il faut faire attention aux effets de bord. C'est-à-dire que oui, vous faites une mesure qui concerne 7% de votre population, mais attention, les 93% peuvent être impactés par cette réforme. Et donc, c'est les personnes qui jouent le jeu, qui sont généralement modestes, et c'est eux qui risquent d'être pénalisés par ce type de mesure.
Alors, je voudrais vous entendre là-dessus, Anne Hédoux et aussi Jean-Marie Pillon. Mais tout à l'heure, vous disiez qu'au Royaume-Uni, les conditions d'accès à une indemnisation chômage étaient particulièrement compliquées et que ça expliquait un taux de chômage assez bas. Est-ce que ce n'est pas aussi ce qui est recherché en France ?
Je n'irai pas jusque-là pour le Royaume-Uni. Je vais venir sur le cas de la France. En tout cas, un des effets qui est certain des coupes dans l'indemnisation, hein, qui interviennent en deux temps. Il y a eu la première vague en novembre avec le durcissement des conditions d'accès, et puis il y a une deuxième vague en avril avec un changement du mode de calcul des indemnités pour les demandeurs d'emploi en activité réduite, pour les plus précaires. Au total, beaucoup de demandeurs d'emploi vont être concernés avec des baisses d'allocations. Donc, ce qui va jouer de manière certaine, c'est qu'on va appauvrir les demandeurs d'emploi.
Vous ne croyez pas à l'incitation au retour à l'emploi ?
Alors, on peut de toute façon... Alors, l'incitation au retour à l'emploi, la beauté de cette question-là, c'est que on a des discours depuis des années qui sont des formes d'éléments de langage pour justifier les réformes, hein, l'idée qu'il faut inciter les gens à travailler. Donc, pendant des années, ces discours ont justifié qu'on incite les demandeurs d'emploi à prendre une activité, même de courte durée, tout en lui permettant d'être indemnisé. Et là, aujourd'hui, ces demandeurs d'emploi en activité réduite, on les accuse de préférer la précarité à l'absence de précarité. Bon, la réalité, c'est que les demandeurs d'emploi sont pas vraiment responsables de la situation de l'emploi. Hein. Si on compare le nombre de demandeurs d'emploi, ils sont plus de 6 millions tout confondu, au nombre des emplois vacants, qui est très petit.
C'est plutôt de l'ordre de la centaine de milliers.
Voilà, qu'on a du mal à mesurer, mais qui est quand même très petit au regard du nombre des demandeurs d'emploi.
C'est plutôt une inadéquation entre l'offre et la demande.
On voit bien qu'il n'y a pas photo. C'est-à-dire, si on veut vraiment que les demandeurs d'emploi retourne à l'emploi, il faut avoir des politiques de création d'emplois dignes de ce nom. Voilà. Et là, ce qui se passe avec les changements des règles de l'assurance chômage, chômage, c'est qu'on fait vraiment porter aux assurances chômage la responsabilité du chômage et même les questions budgétaires, enfin des économies que le gouvernement veut réaliser à l'UNEDIC.
Jean-Marie Villon, vous êtes d'accord, c'est une réforme injuste qui permet surtout à l'État de faire des économies, si je résume.
Ben, elle est injuste, ça dépend des différentes valeurs que chacun peut avoir. Simplement, effectivement, si l'enjeu c'est de fabriquer de l'emploi, ça n'en fabriquera pas. Encore une fois, Éric Ayer et Anne Hidou l'ont mentionné, l'ampleur du chômage n'est pas liée au comportement des demandeurs d'emploi. C'est pas leur manque de motivation qui fait qu'ils se trouvent au chômage. Donc c'est pas en baissant leur revenu que ou en compliquant leur accès à l'allocation que on va mécaniquement les pousser à reprendre des emplois. Peut-être seront-ils plus motivés à reprendre des emplois face à d'autres candidats dans des opérations de recrutement, mais il y aura toujours qu'un seul emploi qui sera distribué à chaque fois. Peut-être la seule petite évolution qu'on peut attendre, c'est que, et finalement c'est là aussi où on est au milieu du guet, c'est que cette réforme de l'assurance chômage, soit elle peut fabriquer des chômeurs pauvres, ce qui est un peu, entre guillemets, ce qu'on lit entre les lignes du projet, il y a de grandes chances qu'elle fabrique des chômeurs pauvres, mais il est possible, si jamais elle est articulée aux différentes transformations du droit du travail qu'on a connues depuis 2-3 ans, et si elle s'articulait avec une troisième transformation, qui serait d'une certaine manière une transformation des façons de proposer des contrats chez les employeurs, elle pourrait conduire à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire à l'émiettement de l'emploi, qui serait accompagné par une forme de pression exercée pour dire effectivement vous avez 600 euros par mois mais vous risquez de les perdre si vous ne prenez pas un emploi à 550.
Et est-ce que l'autre partie du deal, c'est-à-dire d'un côté effectivement la dégressivité des allocations, mais en contrepartie Pôle emploi qui devrait assumer son rôle d'aider à chercher des emplois et aussi la question de la formation à laquelle on va arriver dans un instant, mais d'abord sur le rôle de Pôle emploi et sur sa capacité, Jean-Marie Pillon, vous qui avez travaillé sur Pôle emploi, à lutter contre le chômage.
Alors, avec Pôle emploi, on a le même problème qu'avec les chômeurs, c'est-à-dire que dans les discours qui sont tenus à Pôle emploi par les différents ministres qui se succèdent, il y a toujours ce soupçon, et puis on trouve la même chose du côté du MEDEF ou du côté de l'UNEDIC, qui serait qu'une partie du chômage de masse s'explique en partie parce que Pôle emploi serait inefficace. Et donc Pôle emploi ne ferait pas bien son travail, et c'est pour ça qu'il y aurait tant de chômeurs. Et donc assez régulièrement, il y a des plans qui sont là pour faire en sorte que Pôle emploi fonctionne mieux, soit plus efficace, etc. Et là, on retrouve ces éléments de langage-là dans les transformations qui sont proposées, c'est-à-dire on va enfin bien aider à rechercher un emploi, etc. Or, ces plans-là, à part des emplois de conseillers si jamais on en recrute, mais c'est pas tout à fait le projet, ne vont pas créer d'emplois. C'est-à-dire que Pôle emploi... Et je ne doute pas, et d'ailleurs c'est ce que j'ai pu voir quand j'ai travaillé sur Pôle emploi, les conseillers et les conseillères sont des gens d'une très très grande qualité, d'une très grande compétence, etc. En revanche, ils ne peuvent pas...
Ils n'ont simplement pas les moyens répondre à la demande des demandeurs d'emploi.
C'est ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent proposer des formations, ils peuvent donner des très très bons conseils, mais encore une fois... lors des entretiens d'embauche, eh bien, ce n'est qu'un seul emploi qui est proposé et ils peuvent équiper 10 ou 20 demandeurs d'emploi à se comporter de la meilleure façon qui soit dans les entretiens d'embauche. À la fin, il n'y aura qu'une seule personne de recruter. Donc, c'est ça qui est un peu problématique dans ce type de discours, c'est de considérer que, en améliorant l'organisation de Pôle emploi, on va participer à réduire le nombre de chômeurs. Et je reviens sur cette idée que j'ai évoquée à plusieurs reprises. Une des raisons pour lesquelles les lois Hartz ont fonctionné en Allemagne, c'est effectivement parce que le service public de l'emploi a été mis à contribution pour que certains emplois très peu rémunérateurs deviennent désirables. Et je pense que c'est là où on est au milieu du guet, c'est-à-dire est-ce que Pôle emploi va être mis au service ? Et dans ce cadre-là, il y a quelque chose qui est très difficilement tangible, c'est dans quelle mesure les conseillers et les conseillères vont accepter de jouer ce jeu-là. La plupart des législations renforçant la pression s'exerçant sur les chômeurs ont, depuis les années 2000, été, entre guillemets, amoindries par l'engagement éthique des conseillers et des conseillères. On peut se poser la question de ce qu'il en sera demain.
Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas véritablement des emplois qui ne trouvent pas preneur, et notamment des emplois qualifiés, Éric Ayer ?
Sans doute. Non, mais qu'il y ait des difficultés de recrutement, c'est sans doute indéniable. Le problème aujourd'hui, c'est normalement, quand on est dans des périodes de difficultés de recrutement, on constate, macroéconomiquement, que la productivité augmente. C'est-à-dire que les entreprises qui ne retrouvent pas recrutés, font travailler un peu plus leurs salariés qui sont en place, donc ça fait augmenter la productivité du travail, et ils augmentent aussi la durée du travail généralement, et donc on voit les salaires augmenter et accélérer un peu plus. Aujourd'hui, on l'a dit en première partie de l'émission, au contraire, on a une productivité qui ralentit et des salaires qui ralentissent aussi, qui ne progressent pas. Donc on a quand même une difficulté, nous, analystes, à se dire, tiens, il y a des difficultés à recruter, et pourtant les entreprises recrutent massivement sans productivité. Donc macroéconomiquement, il y a quelque chose à essayer de comprendre, ça peut être des effets de composition. Mais oui, par ailleurs, microéconomiquement, il y a des métiers, on sait, il y a d'énormes difficultés à recruter. Alors là, il y a deux points, sans doute, pour prolonger ce qui a été dit. C'est-à-dire que vous avez deux types de dépenses, en fait, quand vous êtes au chômage. Vous avez des dépenses passives, c'est-à-dire qu'on vous donne une indemnité. Pourquoi c'est important d'avoir des dépenses passives? Parce qu'on se dit que quand vous tombez au chômage, il faut avoir uniquement comme préoccupation d'en retrouver un autre, pas de vous reloger. Si les dépenses passives sont faibles, vous, chômeur, vous allez penser à plutôt vous reloger parce que vous n'avez plus les moyens de vivre dans votre appartement, à changer les enfants d'école, etc., etc. Donc, vous ne pensez pas à retravailler. Donc, c'est pour ça qu'on vous assure le maintien d'un niveau de vie avec ces dépenses passives. Mais il faut aussi des dépenses actives, c'est-à-dire qu'il faut que, lorsque vous tombez au chômage, on mette à votre disposition des personnes qui vont vous aider à retrouver un emploi, à vous reformer si votre formation n'est pas de bonne qualité. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est de baisser les deux, en gros, globalement. C'est ça qui ne va pas. Et pire que cela, c'est-à-dire que effectivement, le fait que Pôle emploi ait mauvaise presse, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vous disent « je ne passe plus par Pôle emploi ». Et donc, globalement, aujourd'hui, Pôle emploi voit arriver beaucoup de demandeurs d'emploi et finalement assez peu d'offres parce que les entreprises ont une sorte de méfiance.
C'est plus le canal privilégié.
Et du coup, c'est une grande difficulté, cela. Donc, il faut améliorer la dépense active, améliorer aussi les performances de Pôle emploi, sans doute, même si je suis complètement d'accord, il c'est déjà des personnes de très bonne qualité, mais changer aussi l'image pour que les chefs d'entreprise aussi reprennent confiance.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des efforts qui ont été faits quand même sur la formation? Il y a eu la réforme de l'apprentissage, il y a eu aussi ce grand plan de formation pour chômeurs de longue durée ou pour les jeunes sans qualification qui a été doté de 15 milliards d'euros d'ici à 2022. Qu'est-ce que vous pensez, Anedou, de ces mesures? Est-ce qu'elles sont suffisantes?
Alors, les mesures qu'on qualifie d'actives, donc qui sont des mesures de contrat aidé et de formation des demandeurs d'emploi, elles n'ont jamais été des mesures suffisantes pour lutter contre le chômage. C'est-à-dire que c'est des mesures d'aménagement du marché du travail, un peu à ses marges. Ça concerne un volant relativement important de demandeurs d'emploi, mais jamais suffisamment pour résorber le chômage. Et c'est des mesures aussi qui posent toujours la question de qu'est-ce qui va se passer après. C'est-à-dire que, bien sûr, former les demandeurs d'emploi, promouvoir la formation...
Encore faut-il savoir évaluer les évolutions du marché du travail.
Alors, il y a des questions très souvent qui consistent à répondre aux besoins du marché du travail. Mais la question qui se pose finalement, c'est aussi si on forme des centaines de milliers de demandeurs d'emploi, est-ce que vraiment à l'issue de leur formation, ils vont avoir des emplois? C'est-à-dire qu'on est toujours confronté à ce déficit d'emploi, finalement.
Sachant que ce marché du travail évolue et change très vite.
Ils vont être formés, mais ils vont continuer à se faire concurrence pour un volume limité d'emplois. Donc, effectivement, ça peut permettre parfois de répondre à des nouveaux besoins, mais dans l'ensemble, les emplois manquent.
Alors, justement, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Les experts de la Banque de France prévoient une croissance de 1,1% en 2020 contre 1,2 ou 1,3 en 2019. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le ralentissement économique se poursuit. Et c'est pas une très bonne nouvelle pour l'emploi, Eric Heyer.
Non, si on pense que le meilleur moyen de créer de l'emploi, c'est tout de même encore la croissance économique, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire sans baisser la durée du travail, enfin sans changer, effectivement, moins de croissance économique égale moins de création d'emplois. Et donc, le chômage aura du mal à baisser. Or, on va dire bidouillage, c'est-à-dire jouer sur la population active et faire sortir des gens plus rapidement ou pas.
Mais il devrait quand même continuer à baisser très lentement.
Donc, du coup, ça va dépendre des perspectives économiques. Bon, on est tous aux alentours de 1,2, 1,3, mais vous voyez, rien n'est moins sûr. C'est-à-dire que quand on regarde le chiffre qui est sorti aujourd'hui de moins 0,1 au quatrième trimestre, est-ce que c'est uniquement un trou d'air? Est-ce que c'est le signal qu'on est rentré dans une récession industrielle un peu plus marquée, d'un ralentissement mondial un peu plus marqué? Toujours est-il que si on prend le 1-2 qui est dans les tuyaux, qui est un peu à l'horizon 2022 la croissance économique moyenne à attendre, ben vous n'allez pas avoir une baisse du chômage très très significative. C'est-à-dire que globalement, si on peut éventuellement descendre en dessous des 8% d'ici la fin du quinquennat, ça serait un maximum. Ça veut dire qu'il va manquer à peu près un point de baisse du chômage pour que le président réalise son objectif de 7%.
Sachant que l'économie française va être dépendante du contexte international, et je pense, avant même de penser au ralentissement chinois ou à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, on pense simplement à l'impact éventuel du Brexit ou du ralentissement allemand, Anne-Edou.
Oui, mais alors là, on est dans des hypothèses. Hein. Moi, je me garde bien. Je pense que les économistes sont pas meilleurs que les météorologues, et donc je me garde bien de faire des prévisions à long terme.
Voilà. L'Allemagne prévoit une croissance de 0,6% en 2020. Ça aura nécessairement un impact sur nous.
Oui, c'est probable. C'est-à-dire que le contexte international n'est pas très bon. Mais voilà, je voudrais pas m'avancer plus que ça dans les prévisions. Je pense que voilà, dans cette émission, on était là pour parler de la baisse du chômage, mais effectivement, on se trouve aussi avec des indicateurs économiques qui n'incitent pas vraiment à l'optimisme. Mais je pense pas qu'on puisse en dire beaucoup plus.
On peut se demander simplement si les exportations vont souffrir du ralentissement de l'économie mondiale. Et si la consommation intérieure qui avait porté l'économie va se poursuivre.
Non, mais il va y avoir un rééquilibrage de notre croissance économique. C'est-à-dire que, alors bon, en tout cas en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, globalement, le principal moteur, alors pour l'Allemagne, mais pour les pays européens, c'est le commerce extérieur. Et avec le ralentissement mondial, effectivement, les pays les plus ouverts, comme l'Allemagne, vont plus souffrir de cela. Nous sommes un pays un peu moins ouvert que l'Allemagne, donc on souffre un peu moins de ce ralentissement, mais on va souffrir également de ce ralentissement. Aujourd'hui, la photographie d'aujourd'hui, c'est que la demande intérieure prend un peu le relais. C'est-à-dire qu'il y a une accélération de la demande intérieure, de la consommation et l'investissement pour cette année 2019. Il va falloir attendre d'avoir un peu plus de précision pour l'année. Mais la consommation devrait tout de même normalement être un moteur de l'économie française encore soutenu. Il y a du pouvoir d'achat qui a été distribué, qui pour l'instant a été épargné. Donc rien n'empêcherait d'aller puiser dans ce taux d'épargne pour maintenir un taux de croissance. Ça, c'est, mais on va dire, c'est du court terme. On a parlé beaucoup de productivité dans cette émission. Vous voyez, si on dit on va rester avec des productivités extrêmement faibles pendant un moment, avec une démographie qui ralentit, ça veut dire que votre croissance de demain, qui est un peu la somme des deux, va être très faible. Et ça, c'est ce qu'on appelle la stagnation séculaire chez les économistes. Bon, mais ça, c'est un risque qui est un peu plus structurel, qui n'est pas franco-français. C'est-à-dire que ça existe un peu dans tous les pays, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder de près.
Oui. On comprend bien qu'il est assez hasardeux, effectivement, de faire des prévisions. On peut même se demander si l'épidémie de coronavirus qui sévit en ce moment en Chine aura un impact économique, et notamment sur la France. On va continuer à suivre tout cela dans les prochaines semaines. Un grand merci à tous les trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission, Éric Heyer, Anne-Edou et Jean-Marie Pillon. Je rappelle votre ouvrage, Jean-Marie Pillon, Pôle emploi, gérer le chômage de masse, paru aux presses universitaires de Rennes.
Merci beaucoup.
Et c'est l'heure de retrouver notre partenaire d'Alternatives économiques. Bonjour Guillaume Duval.
Bonjour.
Vous voulez revenir aujourd'hui sur la question de l'attractivité du site France pour les investisseurs étrangers.
Oui, nos auditeurs s'en souviennent peut-être, même si une information chasse assez vite l'autre. Pour la troisième année consécutive, Emmanuel Macron avait accueilli en grande pompe, le 20 janvier dernier, au château de Versailles, plusieurs centaines de dirigeants de multinationales en route vers le forum économique de Davos, afin de les inciter à investir dans l'Hexagone. Tandis que, parallèlement, comme ça avait déjà été le cas à l'hiver 2018-2019 avec les Gilets jaunes, la réforme des retraites mettait le pays sens dessus dessous, bloquait une partie significative de son activité économique et contribuait à dresser davantage encore les Français les uns contre les autres.
Oui, mais en attendant, l'attractivité de la France s'est manifestement améliorée, Guillaume.
Oui, en réalité, beaucoup de Français ne le savent pas, mais notre pays n'a pas attendu son nouveau président pour devenir attractif. Cela fait déjà plus de 15 ans que, rapporté à la taille de son économie, la France accueille davantage de capitaux étrangers sur son territoire que nos voisins allemands, auxquels on aime tant se comparer. Et cela, malgré les 35 heures, malgré un coût du travail très élevé, malgré les dépenses publiques les plus importantes au monde.
Alors comment est-ce possible dans ce cas ?
Ben c'est parce que le coût du travail et le niveau des dépenses publiques n'ont jamais été le seul, ni même le plus déterminant des facteurs d'attractivité d'un pays. Sinon, la Roumanie, avec ses dépenses publiques à 35% du PIB, contre 56% chez nous, et son coût du travail à 14 000 euros par tête, contre 53 000 chez nous, serait depuis longtemps le roi du pétrole en Europe. Or, ce pays est exsangue, au contraire, il a perdu plus de 3 millions d'habitants en 20 ans, principalement ses jeunes les plus qualifiés. Si la France est attractive, c'est parce que, en contrepartie des dépenses publiques élevées et de ce coût du travail très cher, elle dispose d'un marché intérieur en croissance, d'une main-d'œuvre très productive, d'infrastructures publiques de qualité, d'une administration qui n'est pas corrompue et d'un environnement en relativement bon état.
Certes, mais en 2019, cette attractivité s'est encore accrue.
C'est vrai. La position de la France s'est un peu améliorée toutes ces dernières années sur ce plan, mais c'est surtout parce que celle des autres s'est détériorée. L'Italie s'est enfoncée toujours plus dans la crise politique et le marasme économique. L'incertitude domine depuis 2016 sur le futur des relations du Royaume-Uni avec le reste de l'Europe. L'activité stagne depuis 3 ans en Allemagne. On y manque de main-d'œuvre et les infrastructures se sont dégradées faute d'investissements publics suffisants depuis 20 ans.
Et donc pour vous, il n'y a absolument pas d'effet Macron ?
Si, au départ, sans aucun doute, un président jeune et dynamique qui parle bien anglais et qui fait sien le credo traditionnel des néolibéraux anglo-saxons, cela ne pouvait que plaire aux financiers de Londres et de Wall Street ou aux patrons gavés de stock options des grandes multinationales. Mais si au bout du compte, sa politique suscite durablement le désordre dans le pays, si les mesures qu'il prend, et particulièrement la baisse des dépenses publiques, aggravent les tensions sociales et les inégalités territoriales tout en dégradant la qualité des services publics, l'attractivité de la France, qui était élevée à son arrivée, risque de se retrouver en réalité réduite au bout du compte.
Merci Guillaume, votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast. Un mot sur la une d'Alternative Écho ce mois-ci ?
Les jeunes sont-ils sacrifiés ? Donc c'est en lien avec le débat sur les retraites, mais pas uniquement. Donc on revient sur la situation des jeunes dans notre société.
Eh bien, ce sera quelque chose que l'on lira de près. Merci beaucoup Guillaume, à bientôt.
We fall in love and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything. Just don't tell me no. You stop it still, then you make it rush. You're like a pill that I just can't trust. You tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything. But it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day.
If you can't withstand my love, keep away from me, away from me. If you think you must, keep away from me. If you can't withstand my love, keep away from me, away from me. If you think you must, you'll never stop this day. I will never let you go. Well, who am I to say? Maybe by now you should know. You got your somebody calling. You think you're somebody, don't you? I think you're scared of keeping somebody close.
C'était Stop This Flame de Céleste. Un grand merci à l'équipe d'Entendez-vous l'Écho qui a préparé cette émission. Marguerite Caton, Paloma Soria Brand, Aliette Ovine, Alain de Rocourt et notre réalisatrice Anne Depelchin. Aux manettes aujourd'hui, c'était Sylvain Latu. La semaine prochaine, on retourne sur les bancs de l'école. L'éducation supérieure est-elle devenue un business? Et quel est le coût réel de l'école gratuite? À noter également que le cours de l'histoire de Xavier Mauduit consacre une série aux âges de l'enfance à écouter dès lundi à partir de 9h. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast, et à nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.